Nous étions en train de réfléchir au problème des parents et des enfants. Et je commençais à vous inviter à explorer l'Évangile pour voir comment Jésus nous proposait un peu un éclairage sur cette relation des parents et des enfants. Et la semaine dernière, nous avons réfléchi particulièrement à la paternité, qui trouve en Dieu sa source et son modèle et son éclairage. Alors qu'en est-il de la mère? Eh bien, s'il est vrai que la figure paternelle dans l'Évangile, Jésus en parle abondamment dans les paraboles, et nous éclaire ainsi en nous montrant que la référence qui lui permet de parler d'un père, c'est le Père des cieux. Bien qu'il y a aussi dans l'Évangile des pères en chair et en os, des pères humains qui se manifestent. Ça peut être le centurion de Capharnaüm qui intercède auprès de Jésus pour son fils, son serviteur peut-être. Ça, c'est au chapitre 8e de saint Matthieu, versets 5 à 13. Ou bien, vous savez, le père d'un enfant épileptique que les apôtres n'ont pas pu guérir. On l'a en particulier dans Matthieu 17, versets 14 à 18. C'est au moment où les disciples descendent avec Jésus de la montagne de la Transfiguration. Et c'est un enfant unique que Jésus rend à son père. Donc il y a une série de miracles de ce genre. Mais nous n'avons pas grand-chose à en tirer, si ce n'est que dans ces deux ou trois cas, ce sont des pères qui sont inquiets pour leur fils, pour leur enfant, qui demandent à Jésus une guérison. En revanche, surprise, on a l'impression que dans l'Évangile, il y a un beaucoup plus grand nombre de figures maternelles. Et qu'elles sont beaucoup plus maternelles, concrètes, enfin des personnes précises dont on connaît le nom, ou bien dont la situation nous est parfaitement décrite. Et que ces figures maternelles jouent un rôle beaucoup plus actif que les pères qui apparaissent comme ça au fil du récit. Et je parle des pères humains et des mères humaines. Alors qu'y a-t-il? Ben, d'abord, deux exemples tout à fait extraordinaires. Je sais bien qu'il y a des maris qui se trouvent en face, des époux qui se trouvent en face, mais il y a Marie, la mère de Jésus, et il y a la figure de Saint Joseph dont j'ai déjà parlé. Il y a Élisabeth, et ces deux références sont tout à fait majeures, puisque les deux chants d'action de grâce qu'elles vont chanter. Mon âme exalte le Seigneur et béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, sont des lieux spirituels extraordinaires pour nous faire comprendre ce que c'est que la maternité. Alors je ne reprends pas le tout, parce que si je déployais la manière dont apparaît la figure dont apparaît Marie et ce qu'elle prophétise, à savoir l'Église elle-même, nous serions là encore dans quelques mois. Mais je vous le signale, vous savez assez de connaissances de l'écriture et de réflexion pour voir que ces deux références extraordinaires déjà. Et puis au fil de l'Évangile, on voit toute une série d'autres figures, d'autres personnes qui interviennent, et non pas seulement dans des paraboles. Vous avez par exemple la Cananéenne dont l'enfant est tourmenté par un démon, et elle supplie Jésus de guérir sa fille. Mais voilà que Jésus la rabroue, et c'est elle qui a cette parole admirable. Jésus a une parole qui peut nous paraître dure. Il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Et cette femme répond: les petits chiens se nourrissent des miettes qui tombent de la table. Ne soyez pas scandalisés, choqués de cette réponse de Jésus. Cette manière de parler était courante. Les chiens, enfin c'était un surnom qu'à son époque, était donné aux païens par ceux, les juifs, qui avaient accès à la table des enfants. Et Jésus dit: je n'ai pas vu une telle foi en Israël. Il guérit l'enfant de cette femme. De même, le fils unique de la veuve de Naïm, Jésus est ému de compassion devant elle. Mais il y a aussi il y a aussi une autre figure féminine, un autre personnage qui est tout à fait étonnant. C'est la mère des fils de Zébédée qui, elle, intervient tout à fait dans... qui intervient dans le récit presque de la passion de Jésus, puisque on la voit, comme saint Matthieu nous le rapporte au chapitre 20e, versets 20 à 23, celle qui intrigue auprès de Jésus, au moment où Jésus monte vers Jérusalem, pour que ses deux fils soient bien placés dans le royaume de Jésus, lui demandant qu'ils soient assis à sa droite et à sa gauche, c'est-à-dire qu'ils aient des places de premier ministre, à peu près, ou de grand vizir. Et Jésus la remet un peu en place. Alors, on peut dire qu'elle a une ambition maternelle excessive et qu'elle se mêle un peu de ce qui ne la regarde pas en voulant pousser ses fils. Oui, mais cette brave Madame Zébédée, elle est présente au Golgotha. C'est saint Matthieu qui nous le rapporte au chapitre 27, versets 55 à 56. Elle fait partie, avec les saintes femmes, avec la Vierge Marie, comme nous le rappelle saint Jean, qui sont fidèles jusqu'au bout et assistent Jésus en sa passion. Et ce ne sont pas les fils qui seront là pour qui elle a demandé la première place. Mais c'est les mères et les femmes qui sont là, qui, elles, accompagnent Jésus en sa passion, alors que les disciples et les apôtres se sont dispersés. Ainsi, alors je pourrais continuer de retrouver encore d'autres figures, mais il y a aussi par exemple une parabole où Jésus nous présente des figures féminines qui sont des figures maternelles aussi. Sauf que là, on n'est pas très au clair sur leur relation, leur rôle maternel à proprement parler. Leur situation est comme indécise. C'est par exemple, on dit que ce sont des veuves, l'obole de la veuve. Ça, c'est une vraie femme. C'est une femme réelle qui apparaît dans le temple. Une pauvre vieille femme, une veuve. Donc, doit avoir des enfants. Il est probable qu'elle ait eu des enfants. Mais on ne sait rien de ça, son rôle de mère. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est dans le temple et qu'elle donne toute sa vie en mettant tout ce qu'elle possède dans le tronc. Presque rien. Alors que d'autres ont mis beaucoup, mais c'était de leur superflu. Et Jésus reconnaît qu'elle a donné sa vie. Cette simple phrase de Jésus à propos de l'obole de la veuve, c'est dans Marc 12, versets 41 à 44. La maternité, c'est de donner sa vie. Et c'est à propos d'une femme réelle que Jésus dit ça. De même, il en parlera dans une parabole alors où il parlera de la veuve importune, vous savez, qui prie sans cesse et qui va casser les oreilles du juge en disant « Fais-moi mon droit, rends-moi droit ». Et le mauvais juge, qui ne craint ni Dieu ni les hommes, dit « elle me casse les oreilles, plutôt que de me laisser ainsi assourdir, je vais lui faire justice ». Et là, Jésus dit, comparant ça à Dieu, « Et vous croyez que Dieu, lui, ne ferait pas prompte justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit ?» Mais faites attention, Dieu n'est pas comparé à la veuve, Dieu est comparé au juge injuste. Et la veuve, elle, est la figure, la prophétie des élus, c'est-à-dire de ceux que Jésus appelle, autrement dit des baptisés ou des disciples ou de l'Église, qui crient vers lui jour et nuit. Ainsi, si nous essayons de reprendre tout cela et d'essayer de nous demander mais à quel type d'expérience Jésus se réfère-t-il ou nous renvoie-t-il pour parler de la maternité ? De même que pour la paternité humaine, dont Jésus sait bien les limites, puisque quand il parle des pères réels, il dit « tout mauvais que vous êtes ». Eh bien, il renvoie à ce qui en est la source, la paternité divine, la réalité même de Dieu. Et dans la maternité, ce à quoi Jésus nous renvoie, il n'y a pratiquement pas d'image négative de la mère, sauf peut-être Madame Zébédée, mais je vous ai bien expliqué comment elle se retrouvait à la passion. Et la maternité nous renvoie à quoi ? Elle nous renvoie au peuple de Dieu, à l'humanité appelée et fidèle. à l'humanité qui accomplit l'amour auquel elle est appelée, par qui se réalise la vocation du don de soi-même jusqu'au bout, le don de soi-même par lequel l'humanité réalise sa propre vocation et sa personnalité, comme si la référence féminine et maternelle était comme d'avance la prophétie de l'attitude ecclésiale. Ainsi, nous le voyons, et cela est vrai de très fondamentalement, mais nous voyons que dans la manière de traiter concrètement des pères et des mères au sens courant du mot, Jésus, au fond, nous renvoie comme à deux réalités spirituelles tout à fait fondamentales, d'où cette réalité paternelle et maternelle concrète tire son sens et sa réalité, le mystère même de l'amour de Dieu et le mystère même de l'humanité rachetée, aimée et divinisée par le don de Dieu. On comprend dès lors beaucoup mieux comment la vocation humaine et le couple humain devient dans sa réalité anthropologique, dans sa réalité presque biologique, et comme transfigurée, et symbolise la réalité même de l'histoire du salut. En ce sens, on peut dire que Dieu est à la fois père et mère, au sens symbolique de l'amour, mais on doit dire que les pères et les mères humaines, que les hommes et les femmes, sont tous appelés dans cette vocation maternelle ecclésiale à laquelle nous participons, dans la mesure où nous sommes tous membres de l'Église et appelés à accomplir la mission de l'Église. Au point que Marie est appelée la reine des apôtres, la reine des chrétiens, c'est-à-dire celle en qui notre vocation est elle-même manifestée, prophétisée. Et le dogme chrétien, le dogme catholique de la glorification de la Vierge en sa chair et en son âme, telle que la foi catholique l'a exprimée, et la foi catholique, et c'est vrai aussi de nos frères orthodoxes, bien sûr, avec d'un certain nombre de confessions réformées, l'Assomption, eh bien, c'est reconnaître ce mystère de salut accompli, dont l'incarnation du Verbe, l'humanité de Jésus, est comme le suprême don qui se déploie dans la glorification de sa mère et laquelle anticipe notre glorification à tous. Alors, c'est à cette lumière de la paternité et de la maternité humaine et de ce qu'elle représente et d'où elle tire leur éclairage que je voudrais, dans la suite, essayer de comprendre les blessures et les déchirures de la mission paternelle et maternelle qu'éprouvent tant d'entre vous. À la semaine prochaine.